Vous écoutez Radio Campus Lille, il est 6h.
Le Bureau d'art et de recherche est une association culturelle installée à Roubaix. Fondée en 1999, ses activités incluent une galerie d'art contemporain, émergent ou confirmé, d'horizons divers. Les expositions reflètent la diversité des pratiques contemporaines. Elle organise également des expositions hors ses murs en nouant des partenariats. Le Bureau d'art et de recherche développe une approche active de la médiation et de la mise en dialogue. Rencontre avec Éric Rigolo, président du Bureau d'art et de recherche.
On a pendant une dizaine d'années travaillé rue du Grand Chemin en face de la cave aux poètes. Pendant cette période-là, on a fait plutôt la production, des coproductions. Et aux alentours de 2009-2008, on nous a proposé un autre lieu et de changer un peu de format associatif. Donc c'est-à-dire d'être ouvert beaucoup plus... avoir plus de jours d'ouverture, donc du jeudi au samedi, le premier dimanche du mois aussi, et d'être un opérateur culturel en proposant des expositions, des lectures, des diffusions, d'être une cheville ouvrière de partenariat, à la fois dans la promotion, certes, des artistes, mais aussi des questions qui peuvent traverser notre société contemporaine. De proposer des ateliers. Là, depuis à peu près un an, aussi, on accompagne les expositions avec des bibliographies qu'on réalise avec l'aide et le partenariat de la Grand Plage, donc qui donne l'occasion de découvrir des livres, de les parcourir, ou aussi de faire des lectures à haute voix, de manière soit participative ou en recevant des personnes qui aiment lire à haute voix, je dirais.
Peut-être est-ce que vous pouvez nous dire les différentes étapes entre le projet initial et aujourd'hui où vous en êtes ?
Voilà. Ben avant tout, on est des amateurs, on le reste avec des bénévoles, on n'a pas de salariés. Donc au départ, on était une petite équipe et l'objectif c'était de travailler avec les artistes. Et au fil du temps, on s'est mis à travailler aussi avec les publics et d'autres associations, parce que je pense que c'est important, intéressant aussi de se nourrir dans la collaboration avec des associations qui ont d'autres buts, d'autres missions, et d'aller vers les publics ou d'accueillir les publics, et ça c'est important en tant que tel, et donc de désacraliser, de faciliter, de fluidifier le rapport des uns et des autres aux pratiques artistiques en art visuel et de pas être simplement un producteur mais aussi quelqu'un, une association qui propose voilà, de la médiation, des ateliers ou même là cette année on est intervenu auprès d'un certain nombre d'écoles et de publics de CM1, CM2 par rapport au concours d'éloquence que la ville a mis en place. Et le sujet, là, c'était Nelson Mandela. Donc, nous, on défend la liberté d'expression, je dirais, la liberté des artistes, mais celle de tout et chacun. Et donc, d'accompagner des tout jeunes enfants dans ce chemin-là, c'était vraiment intéressant.
Hein. Vous êtes que des bénévoles, et à côté de ça, vous travaillez.
Oui, tout à fait.
Donc, comment est-ce que vous avez réussi à dégager du temps ?
Dégager du temps, c'est par rapport au... Moi, je suis personnellement à la fois graphiste éditorial et enseignant, intervenant, formateur. Donc, c'est de trouver une souplesse dans tout ça et puis de rester accueillant et donc, avec les bénévoles, de pouvoir planifier un montage d'exposition, un après-midi de lecture, du transport d'œuvres, bon, le divers et le varié. Et que chacun y trouve satisfaction, épanouissement. Ça, c'est aussi très important dans la vie d'une association, ou être même force de proposition. Hein. C'est pas nous qui programmons toutes les expositions qui sont présentées, soit au sein de la QSP, ou comme on fait des accrochages extérieurs aussi, on écoute, je dirais, et on voit ce qu'on peut faire au regard du projet. Nous, on a un peu un cahier des charges. C'est pas d'exposition solo, c'est plutôt des expositions collectives ou de groupes. Ça peut être un commissaire d'exposition ou des artistes qui proposent une exposition pour les publics.
QSP.
Quantité suffisante pour. Donc c'est le bâtiment, parce que le bâtiment, il n'y a pas que nous. Il y a une autre association, Etouchen, Regard Croisé, qui fait de la vidéo, du documentaire. On a plusieurs sociétés qui ont leur siège social. Moi, j'ai mon bureau, l'association aussi. Et puis c'est un espace qu'on peut recevoir aussi, et on l'a fait là dernièrement, reçu des étudiants qui ont des gestes associatifs solidaires. Donc il y avait là, on a reçu des étudiants, c'était la table du partage, d'autres qui travaillaient pour l'UNICEF, voilà, et accompagner d'autres initiatives. C'est important, on a un beau lieu, donc autant le partager et puis le faire vivre aussi. Voilà, c'est désacraliser un peu l'art ou l'accès à la création aussi, en proposant une action de soutien. En même temps, on découvre l'exposition qui est ouverte à ce moment-là, et donc croiser les publics et croiser des générations, parce que là, c'est quand même des étudiants qui ont une vingtaine d'années. Et nous, on est un public très diversifié, ce qui est un bonheur. Ça a été un long travail à mettre en place. Mais maintenant, les gens connaissent le lieu, nous connaissent, savent qu'on peut y voir des choses curieuses. Voilà, et qu'on peut aussi y proposer des diffusions, sensibilisations à des causes diverses et variées. Et ça me paraît très, très important en tant que tel.
Éric Rigolo, président du Bureau d'art et de recherche.
Au départ, si j'ai bien compris, vous étiez là pour la promotion
des artistes. Et aujourd'hui, on est, je dirais, comme une association beaucoup plus ancrée dans la vie de la cité et l'histoire aussi, nos histoires contemporaines. Parce que bon, la table du partage, c'est de la solidarité par rapport aux personnes qui manquent de ressources. Sur l'UNICEF, là, c'était par rapport à l'enseignement et à des enfants en Ouganda. Je dirais qu'on travaille avec la FPS, c'est la question de la Palestine et de sensibiliser. Voilà, aussi par le biais de l'art ou de la création. L'année dernière, dans le cadre d'Urbex, on a pu faire un hommage à Mahmoud Darwish, qui est à la fois un poète, un résistant, un politique et quelqu'un qui était inclus dans la vie. L'art est inclus dans la vie. Et ça, c'est cette dimension qu'on essaye d'amener en accueillant, en partageant, en co-produisant, je dirais, ou co-réalisant un certain nombre d'actions. Je dirais, c'est un peu la culture de mettre le pied dans la porte et d'aller voir ce qu'on peut faire, je dirais. Je prendrai l'exemple, je crois que c'est à partir de 2007 ou peut-être avant qu'on s'est inscrit dans les journées du patrimoine et on a débordé du champ de l'art contemporain ou de la création contemporaine pour aller questionner c'est quoi le patrimoine et monter soit des balades, trouver aussi des formes. Ça c'est intéressant, soit les co-réaliser avec le public ou leur proposer et de voir ce qui peut fonctionner. Et on garde un aspect créatif, on reste pas sur nos lauriers, je dirais, parce qu'il y a des formes qu'on peut abandonner, parce que on l'a réalisé, on sait qu'on l'a fait, voilà, on y a trouvé une satisfaction, et la répétition, on est du côté des créatifs, et puis être à l'écoute aussi des publics, de sentir où les publics sont, où ils ont, quelles sont leurs curiosités. Ça, c'est important aussi de se mettre dans ce sens-là.
Réussir à vulgariser l'art et être accessible à tous.
Tout à fait. Moi, je pense que il n'y a pas besoin. Avant tout, c'est de l'émotion. C'est comme toute chose. Soit on a une émotion ou on n'en a pas. Et à partir de là, c'est avec des mots simples. Et après, comme toute chose, je dirais, on peut monter, on peut faire du verbiage ou faire le pédant, ceci. Mais avant tout, c'est l'émotion qui compte. Hein, je dirais, c'est comme le texte, le visuel, si on ressent et faire partager ça, voilà, avec des mots simples, parce qu'on peut partir de la forme et aller à l'idée où on reste que dans la forme, où c'est quoi le beau? Voilà, j'ai une émotion, le beau, mon sentiment du beau, il est différent d'une autre personne. Et l'art nous permet ça, de partager et de voir comment, pour tout et chacun, on situe un concept, une idée. Et on y va doucement, je dirais. On peut dire, ça, j'aime pas, mais ça, j'aime. Et c'est pour ça aussi qu'on a monté des expos collectives. C'est rendre curieux. Voilà. Aujourd'hui, on est tellement dans une société où on est mis dans des boîtes et nous-mêmes, on se met dans des boîtes au travers de nos écrans, de ceci. Là, c'est de retrouver un sentiment de liberté, d'être un promeneur, de flâner, de laisser flâner ses yeux, ses idées, je dirais. Hein, une exposition, c'est comme un jardin, c'est comme un bâtiment, c'est comme une ville, ça se découvre. Chacun a son rythme et parfois, je dirais, il n'y a rien à comprendre. Hein. Ce n'est pas de la communication, la création artistique, que ce soit, elle soit musicale, en art visuel. C'est du sensible et il faut se laisser aller. Voilà. C'est du lâcher prise aussi, pas se laisser intimider. Voilà. On peut aimer un bouquet de fleurs ou l'artiste peut représenter un bouquet de fleurs. Après, c'est comment je reçois ce bouquet de fleurs? Et après, on peut se dire, ah oui, mais il a utilisé, c'est la technique, je dirais. Hein, et c'est intéressant ce rapport, et Roubaix est à cette qualité d'être à la fois une ville d'art appliqué par rapport à son histoire textile, l'école, les SAT qui est là, par rapport aux motifs, à ces choses-là. Puis de l'autre côté, on a aussi des artistes, il y a quand même une tradition d'avoir des créateurs et l'énergie, elle est à la fois associative et elle est à la fois personnelle, je dirais.
Quand vous parliez d'apprentissage des émotions, il y a aussi réussir à mettre des mots sur ces émotions.
Oui, tout à fait. Et tous les mots sont bons, je dirais. Et même quand il y a des fautes d'orthographe, si c'est phonétique, voilà, que la personne s'exprime ou ressente ou écoute et dit « Ah, vous parlez bien ». Bon, moi, ça peut me flatter, certes, mais c'est traduire, voilà, pour celui qui n'a pas les mots.
Les mots, les codes.
Voilà, les mots, les codes, avant tout, c'est peut-être un langage tout simple et petit à petit, on évolue et on découvre, on est émerveillé. Et ça, c'est magique.
Nous étions avec Éric Rigolo, président du Bureau d'art et de recherche. Reportage réalisé par Christian Lazaoui pour Radio Pastel.
Une émission proposée dans le cadre des productions coopératives des radios associatives du nord de la France. Une coopération qui a reçu le soutien de la région Hauts-de-France.
Vous écoutez Campus sur 106.6 en FM et en stéréo. Retrouvez Campus sur internet www.campuslille.com.
Oui, mais tu l'ignores, une fille en rut dehors. C'est dangereux pour tes yeux et ton petit corps. Et si tu crois ces choses-là sont rares, tu t'es fait berner, tromper, tu t'es fait avoir. Parce que nous, on est calés sur la lune, comme la marée et les loups-garous. Si dehors, tout à l'air. jolie. Tu ne savais plus quoi faire des jupons de ta mère. Ils étaient rachons et mèches comme des vieilles sorcières. Parce que nous, on est calés sur la lune, comme la marée et les loups-garous. Si dehors, tout a l'air si doux.
We'll be right back. Le 30 avril dernier, Salomine inaugurait son centre européen de la mobilité décarbonée sur le site de l'usine Durisotti à Salomine, près de Lens. Durisotti, une marque emblématique de la région, spécialisée dans la transformation de véhicules pour les adapter à un usage professionnel. Ils installent ainsi les équipements des forces de l'ordre, des services de secours ou des professionnels du bâtiment, par exemple. Pourtant, ce fleuron de la région a failli disparaître. Il doit son renouveau aujourd'hui au soutien sans faille des collectivités locales, à l'investissement des équipes et à un complément d'orientation, la mobilité décarbonée.
Bonjour, Marie Delpré, je suis directrice générale de GT Automotive. Ça a été extrêmement compliqué, on a même dû reprendre en anticipé par rapport au timing qui était prévu avant d'avoir tout sécurisé et tout bouclé, donc c'est vrai que ça a été un peu un saut dans le vide parce que justement l'alternative c'était la liquidation. Donc on était vraiment à deux doigts, oui, vraiment. C'est une entreprise qui depuis longtemps a beaucoup ralenti dans ses activités, donc n'atteignait plus son point mort, effectivement. Il y avait des pertes de marché par une perte de dynamisme global, un petit peu une lassitude aussi, notamment avec la reprise en 2019 par GFG Alliance. Depuis, il n'y avait pas eu d'investissement, pas eu d'implication, peu de vision. Donc pour eux, c'était pour les salariés, ça manquait effectivement de vision et de besoin d'aller plus loin. Et tout ça a emmené à une baisse d'activité globale, une baisse d'énergie aussi. Et donc ça avait besoin d'un vent nouveau et d'un vent frais pour repartir plus fort.
Et ce maintien dans l'activité et dans l'emploi a pu avoir lieu en partie grâce au soutien de l'État et des collectivités, mais pas uniquement. Marie Després, directrice générale de GTE Automotive.
Ça a contribué forcément, hein. Pour réinvestir, il faut du cash, il faut repartir. Donc ça c'est évident, c'est un nerf de guerre. Par contre, c'est pas qu'un soutien de cette forme-là, parce qu'on a aussi beaucoup de marchés publics. Donc il fallait faire perdurer les marchés publics, il fallait les renouveler, les développer. Et l'avantage, c'est que comme avec le reste du groupe sur les entités, on avait déjà ces clients aussi en portefeuille. On est venu avec des marchés supplémentaires pour faire tout de suite repartir les choses. Et on est venu aussi avec la confiance client qui nous connaissait déjà, qui savait ce dont on était capable, qui savait notre savoir-faire et notre capacité à redresser une entreprise comme on avait pu le faire en 2020 chez Delcroix.
Pour sauver l'usine Durisotti, l'État a dû mettre la main à la poche. Mais pas à n'importe quelle condition, nous rappelle Marie Després, directrice de GTE Automotive.
Pas une subvention, c'est un prêt.
Oui, c'est un prêt, pardon.
C'est une grosse différence, oui. Mais c'est très précieux. Donc voilà, c'est 4 millions de prêts d'État. Ce n'est pas les seuls à venir déjà. Il y a l'État qui est à 4 millions, mais il y a aussi la région qui est intervenue et la communauté d'agglomération qui est venue en aide concrète et aussi en aide financière. Nous, les actionnaires et nos partenaires bancaires qui sont venus. Donc finalement, les premiers investisseurs, ça reste nous. C'est vrai que c'est important quand même de le préciser. C'est vraiment une aide complémentaire que l'on a reçue des instances publiques et qui était indispensable pour payer nos fournisseurs aussi, parce qu'ici, il y avait une grosse dette fournisseur qu'on a voulu reprendre pour ne pas les fragiliser, puisqu'il y avait déjà une économie locale qui souffrait de la souffrance de Durisotti. On a eu un dépôt de bilan avant la reprise, qu'on n'a pas pu éviter, d'une autre entreprise qui travaillait presque exclusivement avec Durisotti. Et ensuite, on a ce financement des fournisseurs. On a aussi un redémarrage fort qui doit se faire, donc avec une nécessité de BFR et des investissements et de remise en conformité et de sécurité aussi sur le site, parce que c'est vrai que GFG n'avait pas investi du tout, y compris dans ce bien-être des salariés et cette sécurité des salariés qui est indispensable pour avoir une entreprise équilibrée et saine et du beau produit. Il faut que les choses se passent bien aussi en interne, c'est eux l'âme de la boîte.
Les salariés qui souvent ont alerté sur les conditions de travail. L'environnement sécuritaire était défaillant, dépassé au niveau des normes et il a fallu regagner la confiance des salariés.
Effectivement, parce qu'on part de très très loin. C'est aussi pour ça qu'on a fait des signalements, parce qu'il y a eu beaucoup de choses qui n'ont pas été respectées, qui n'étaient pas aux normes au rachat. Donc on a fait des signalements au procureur, notamment sur la partie financière. On a fait aussi avec l'inspection du travail et aujourd'hui on a des plans d'action qui sont vus avec eux pour remettre aux normes. Je pense que la plus grosse difficulté qui est la plus importante ici auquel il faut faire face, c'est la souffrance des salariés qui a eu lieu pendant très longtemps, où ils étaient dans l'incertitude, dans la défiance aussi, parce que ça fait longtemps qu'ils se sentent abandonnés. Donc faire partie d'un groupe, reprendre un dynamisme, avancer étape par étape et remettre tout ça en place, ça prend du temps, ça prend de l'énergie, mais il faut que tout le monde avance dans le même sens, et il faut avant tout pour ça qu'ils soient bien, qu'ils viennent bien le matin dans de bonnes conditions, et ça c'est le travail principal sur lequel on doit travailler, et on travaille déjà avec les élus et les instances, inspection du travail, CARSAT, etc., parce que c'est eux qui nous guident aussi là-dedans et dans les priorités.
Pour poursuivre son renouveau, GTE Automotive va donc s'appuyer sur deux savoir-faire. Le savoir-faire historique, la transformation des véhicules, et la mobilité décarbonée, la mobilité électrique.
Oui, alors on continue notre activité historique, hein, c'est évident, c'est un vrai savoir-faire à maintenir, des vraies compétences. Et ces compétences, ces normes et ces homologations, ces formations nous servent aussi dans les nouvelles activités. Les activités de refurbish, donc la remise en état de véhicules pour des secondes vies, qui commencent dès ce mois-ci. Les activités de rétrofit de thermique en électrique, où effectivement c'est aussi des métiers de carrossage et d'aménageur. Et toute la partie fabrication de batteries qui vient en support, qui là nécessite aussi des formations complémentaires et la mise en place d'infrastructures.
Et pour mener à bien ce renouveau, Marie Després, directrice générale de GTE Automotive, annonce une bonne nouvelle, des recrutements massifs avec près de 1600 postes à pourvoir bientôt.
Oh que oui, et j'en suis ravie. On a un bassin quand même qui est très propice à ça. C'est une des raisons de notre choix sur Salomine. On a tout ce qu'il faut pour pouvoir former et embaucher. Donc l'objectif, c'est d'atteindre facilement les 2000 emplois. Aujourd'hui, au niveau du groupe, on est à 450. Qu'en 2028, il faut qu'on soit 2000 pour que tout délivre correctement. Donc oui, il y a un plan de recrutement important. Sur Salomine, c'est le principal lieu d'embauche. Donc aujourd'hui, on est 200 et quasiment tous les emplois créés seront sur Salomine et sur Bapaume, mais principalement ici à Salomine.
Un chiffre qui peut donc surprendre et que la presse présente a d'ailleurs fait confirmer plusieurs fois, ce qui amuse Marie Després, qui rappelle le décor initial.
En 2010, c'était Ludwig tout seul dans son bureau. En 2014, ils étaient trois. Et puis, progressivement, on a beaucoup augmenté. Alors, bien sûr, il y aura aussi certainement de la croissance par rachat, parce que c'est aussi notre métier que de grandir de cette façon-là, pour aussi l'impact CO2 que ça implique. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, on reprend un site industriel. C'est énormément d'économies de CO2. Par rapport à la construction, il y a un foncier qui existe, il y a déjà un site qui est bétonné, viabilisé. C'est pas la peine d'en faire des supplémentaires, on a tout ce qu'il faut ici. On le revalorise, on le revitalise et c'est comme ça qu'on fonctionne. Notre ambition, c'est d'être les numéros 1 sur la décarbonation de la mobilité professionnelle. Alors aujourd'hui, on est effectivement numéro 2 chez les carrossiers. Sauf qu'aujourd'hui, on veut faire plus que ça, on fait plus que ça. On offre des formations, on offre des conseils, on offre de l'infrastructure, on offre de l'ingénierie. Et l'importance pour nous, c'est justement de créer ces partenariats, parce qu'on travaille aussi avec des partenaires. Il y en a qui font mieux que nous certains métiers. Donc on a toute une sphère et c'est l'objectif du CEMD, le Centre Européen de la Mobilité Décarbonée, dont vous voyez l'affichage maintenant sur les locaux. C'est de créer cet écosystème autour de nous, à la fois avec les institutionnels, les centres de recherche avec qui on a déjà des partenariats, les centres de formation et les entreprises avec qui on travaille pour offrir tous les services et les produits liés à la décarbonation de la mobilité professionnelle.
C'était un sujet sur l'inauguration du Centre européen de la mobilité décarbonée sur le site de l'usine Durisotti à Salomine. Un sujet de Julien Maille de Radio Plus.
Cette émission est proposée dans le cadre des productions coopératives des radios associatives du nord de la France. Une coopération qui a reçu le soutien de la région Hauts-de-France.
Retrouvez toute la musique que j'aime, un projet artistique de territoire sur Radio Campus. Une série d'émissions réalisées en direct et en public à Villeneuve-d'Ascq. Toute la musique que j'aime est une aventure qui donne la voix aux habitantes et aux habitants d'un quartier à travers 5 émissions diffusées aux 4 coins de la ville. Rejoignez-nous pour la dernière émission le 21 juin à partir de 17h à la maison de quartier Pasteur. Au programme balade sonore, repas convivial, performances musicales et rencontres inédites. Des émissions proposées par l'Amicale, coopérative de projets vivants, en partenariat avec la Ferme d'en Haut et dans le cadre d'un contrat ville avec la ville de Villeneuve-d'Ascq.
j'étais belle et bien un peu puérile. Je transformais les hommes en animaux. Oh, combien de marins, combien d'imbéciles, j'ai changé en pourceaux. J'avais de la malice, je tends mes maléfices aux compagnons d'Ulysse. Mon nom vous parle encore de légendes anciennes, on m'appelle Circé et je suis... Mutatis mutandis, ici je veux un groin, un jambon pour la cuisse, et qu'il te pousse au rein, un curieux appendice. Mutatis mutandis, maintenant je t'impose la couleur d'une rose, de la tête au coccyx. Mutatis mutandis. Peut nous paraître bon dans l'homme, non. Je n'ai fait que donner la forme qui convient à ces jolis nourrins. Prisonnier de mes bouches, de mon œil qui les jauge, de ma main qui remplit l'auge. Pas aux gens dans la boue, pauvres petits humains. Seriez-vous plus serein, esprit sain ou porc sain? Mutatis mutandis, ici je veux un groin, un jambon pour la cuisse, et qu'il te pousse au rein, un curieux appendice. Mutatis mutandis, maintenant je t'impose la couleur d'une rose, de la tête au coccyx. Mais le temps a passé et j'ai jeté mes dopes, mes poudres, mes potions, mes sortilèges. Il y a longtemps qu'Ulysse a rejoint Pénélope, entre autres sacrilèges. De port en port, voir si je trouve encore un homme dans chaque port. Constatant que personne dans ce monde en déglingue ne met plus de magie au fond de sa seringue. Quand ce n'est qu'en gorée que je les transformais, les voici désormais enivrés par le fric. Le pouvoir les combine, changez en charognards, en vautours, en vermine. Mutatis mutandis, ici je veux des dents, que ton poil se hérisse, qu'il coule dans ton sang, la fureur et le vice. Mutatis mutandis, que brûle dans ton cœur la haine et l'avarice. Prédateur, la sinistre police. Sois aveugle et sois sourd et mène au sacrifice la pitié.
On ne voit plus trop derrière, mais il y a un sol blanc qui est à moitié mort, donc, mais qui était le plus vieil arbre, toujours le plus vieil arbre d'Arras. Mais il a été atteint d'un champignon, donc il est dépérissant. La petite anecdote, c'est que juste devant nous ici, on a une ancienne piscine. Et un jour, c'est rigolo, quand Thierry en parlait, ils sont rentrés et ils ont vu que leur père avait enlevé la piscine et dedans il a créé un bassin, donc avec d'un côté des nénuphars et de l'autre côté une tourbière. Mais là, la tourbière est complètement
envahi. Bon, on peut quand même jeter un petit coup d'œil à la tourbière. Oui,
on peut passer par là.
Bon,
après,
Jabo Flora et l'association des amis du jardin botanique Floralpina d'Arras. Son but est de contribuer à faire connaître et perdurer ce jardin créé par Jean-Michel Spa à Arras en 1953. Et ce jardin est riche de 4200 espèces et variétés différentes, dont une importante collection de plantes alpines. Cette association a organisé une visite publique autour d'une thématique « Fabrique ta petite mare ». Reportage réalisé sur place, agrémenté de l'ambiance de la visite. Et on écoutera également quelques réactions de visiteurs. Et on commence par une interview avec l'animateur de cette visite.
Christophe Laborde, paysagiste et surtout membre de l'association Jabo Flora, donc c'est les amis du jardin Floralpina. Et notre objectif, ça a toujours été d'ouvrir le jardin et d'accueillir le public. Le jardin, au départ, était privé. Il appartenait à Monsieur Spa, qui était pharmacien et qui était passionné de plantes alpines en particulier, mais de plantes en général. Et Monsieur Spa est décédé. La maison et le jardin ont été arrachés par la communauté urbaine d'Arras, qui, par ce biais-là, l'ont sauvé quelque part, puisque le jardin est encore présent aujourd'hui. Et on essaie toujours, nous aussi, d'y participer et de lui redonner vie, de refaire des animations et des ouvertures au public, mais qui sont pour l'instant encore en ébauche, je dirais. Voilà.
Le but donc de cette visite aujourd'hui, c'était Fabrique ta mare toi-même. Donc du coup, on a constaté un petit peu comment ça se passait pour fabriquer une mare. Mais quand on voit l'étendue et la diversité de ces plantes, de ces arbres,
c'est tout ce qui fait le charme de ce jardin, parce que les botanistes, ils venaient beaucoup pour voir les plantes de collection, mais en fin de compte, tout le monde appréciait ce jardin, ne serait-ce que par les ambiances qui s'en dégagent, et le côté serein, calme, très, très original, avec des zones où l'eau est omniprésente, des zones plus sèches au niveau des rocailles, des ambiances très parfois à l'ombre, parfois en plein soleil, donc c'est vraiment des milieux très variés. Et nous, on a essayé de faire des animations aussi en faisant participer d'autres associations, soit des musiciens, des peintres, des photographes. Il y a même Maé qui raconte des contes dans le jardin. D'ailleurs, dans le cadre, aujourd'hui, c'était une des animations de l'agenda écologique de la communauté urbaine d'Arras, où là, on intervient en tant que bénévole. Et Maé va intervenir à la fin du mois pour raconter des histoires sur le thème des arbres qu'elle a soit recompilé de différents auteurs, soit inventés. Et c'est vraiment un voyage aussi extraordinaire. Et il y a également Aurélien qui fait découvrir le jardin du côté plus botanique, avec un jardin sans entretien, en utilisant des plantes couvre-sol ou d'autres modes de gestion qui sont des économies de moyens. Et puis le fait d'avoir un jardin vraiment très original et joli toute l'année.
Vous connaissez certainement l'association Musique en roue libre. Je trouve que ce lieu, il est hyper approprié pour des petits happenings musicaux très acoustiques, violoncelle, etc. Ça.
Oui, je pense que potentiellement on peut faire plein d'animations. Alors, nous, on n'est que l'association Jabo Flora. Ouais. Et c'est vrai qu'on a un partenariat privilégié avec la communauté urbaine d'Arras. Et c'est vrai que là, j'aurais pas insister lourdement, mais c'est vrai que le fait qu'il soit intervenu, pour nous, c'était vraiment la solution idéale. Et maintenant, on sent que le projet doit se... Il faut recréer un nouveau jardin. C'est plus un jardin privé d'un particulier botaniste. Donc, il y aura une autre évolution à trouver. Et nous, on s'attache à s'impliquer toujours fortement à ce niveau-là.
Peut-être un petit message à passer, si vous avez besoin de main pour entretenir ce jardin.
Alors c'est vrai qu'on est une petite association, là on n'est plus qu'une dizaine de personnes, 10-15 personnes, mais c'est vrai qu'on aimerait bien monter un peu en puissance et retrouver des gens qui pourraient nous épauler et participer à nos actions. Et alors je ne m'attendais pas à votre question, donc je n'ai pas préparé, mais on est donc à Jabo Flora, AGABO Flora, FLORA, tout simplement. Il y a le site internet, vous avez toutes les informations. Et n'hésitez pas à prendre contact avec nous pour découvrir ce que l'on fait et voir comment vous pouvez participer à toutes ces choses qu'on essaye de mettre en route.
Il faut gérer ce jardin. Il y a des plantes qui peuvent paraître peut-être invasives. Vous constatez quand même qu'il y a des plantes qui n'étaient pas là au départ et qui sont arrivées. On pense aux oiseaux qui déposent des graines, etc.
Le jardin, c'est vrai, est en cours d'évolution. Ça fait 2 ans qu'il n'est plus entretenu de la même manière qu'à l'époque de Monsieur Spa, où il y avait vraiment des jardiniers spécialisés. Malgré tout, le jardin dans l'ensemble, pour l'instant, il a bien évolué. Mais on voit que de ci, de là, les noisetiers, les cornouillers, les bouleaux commencent à s'installer et que les choses pourraient très vite évoluer. Et c'est pour ça que nous, on aimerait bien réfléchir avec le CUA quels sont les aménagements à faire dans le jardin pour rendre son entretien plus facile, plus à l'optimiser et en même temps garder toute la richesse des lieux. Ce qu'on peut dire déjà par rapport à la création d'une mare, il faut globalement, il y a 3 étapes. La première étape, c'est déjà la réflexion. C'est ce que vous faites aujourd'hui. C'est où l'installer, comment la dessiner, comment organiser. Donc ça, c'est une phase qui est importante, qui permet de bien préparer les aménagements. Après, il y a la phase opérationnelle, donc comment on la crée concrètement sur le terrain, comment on fait le trou, l'étanchéité, etc. Et puis le dernier point, la dernière phase, c'est quand même c'est aussi l'entretien. Parce que c'est un espace qui est vivant et si on ne fait rien, vous voyez ici on n'a rien fait pendant 2 ans, au début on n'a pas planté les typhas, mais forcément elles étaient à côté, elles sont venues naturellement et on a même eu l'apparition d'algues filandreuses et qui est quand même un problème pour la mare. Et je dois vous avouer, comme je n'étais pas encore venu depuis cette année, j'avais pas vu ce problème-là. Donc, ce sera intéressant d'en reparler avec les services de la CUA pour leur proposer des solutions, améliorer la mare et éviter de se retrouver dans cette situation-là. Le point qui est important pour installer la mare, c'est déjà la proximité de l'alimentation en eau. Donc on verra après les différentes sources d'alimentation possibles. Alors ici, comme on est dans un jardin qui est assez grand et Monsieur Spa avait un système, comme il y a le cours d'eau qui est juste à côté, les douves, il avait un puits et même quand l'eau était très basse, il y avait un système de pompe pour pouvoir arroser le jardin. Donc la localisation, nous on ne s'était pas posé la question. Et c'est vrai qu'aujourd'hui on se poserait la question où mettre la mare. La logique qu'on aurait peut-être plus, c'est on peut récupérer les eaux pluviales de la toiture, de la maison, des serres, et donc on installera une réserve d'eau qui permettra d'alimenter après par la mare, par écoulement naturel. Donc ça c'est l'objectif, c'est vraiment ça, c'est de savoir où est-ce qu'il y a des possibilités d'approvisionnement en eau et pour localiser, d'avoir également un espace qui est quand même assez ensoleillé. Donc là on est près d'un cèdre bleu qui n'est pas trop grand, donc ça va encore, mais parce que l'idée c'est quand même de profiter du soleil, même si ça favorise les algues et différentes plantes qui sont très prolifiques et qui peuvent saturer l'espace. Malgré tout, c'est les mares, pour bien se développer, ont besoin d'un espace plutôt ensoleillé. Et en plus, là, c'est un arbre persistant, ça va, parce que quand on a trop de feuilles qui tombent dans la mare, surtout quand c'est du peuplier, ça s'accumule, ça fait de la vase, etc. Donc c'est vraiment un gros problème. Alors après, il y a un problème de réglementation. Alors moi, au début, ça, je ne faisais pas trop attention, mais quand j'ai travaillé avec l'association des mares du Pas-de-Calais, ils ont mis l'accent sur le fait que la réglementation au niveau des mares est une réglementation et il faut qu'on soit à 35 mètres des habitations normalement. Alors après, ça dépend ce qu'on appelle mare et ce qu'on appelle bassin d'agrément. Donc c'est voilà. Mais je pense que pour une mare assez conséquente, là c'est une contrainte qu'on est vraiment obligé de prendre en compte parce que il y a une réglementation qui est assez importante.
Qu'est-ce qu'est-ce que vous avez pensé donc, de cette visite qui n'est pas terminée encore hein, mais...
C'était intéressant. Nous, on veut vraiment mettre une mare chez nous, donc on a pas mal de terrain. Et du coup, on venait prendre des conseils un peu et avoir des réponses à quelques-unes de nos questions sur le coin, en fait, vu qu'on habite à Mercatel. Là, on est à Arras. Donc, avec la faune d'ici, avec l'équilibre écologique qu'il y a ici, quoi. Pas avoir des réponses sur Internet, ce qui ne correspond pas forcément au lieu où on est ici.
Voilà. Mercatel, on peut rappeler où c'est exactement ?
Mercatel, c'est au sud d'Arras, donc il y a Borin en dessous. Là, c'est la première ville après Borin, au sud d'Arras.
Bon, et vous, alors, les enfants, alors, qu'est-ce que vous avez pensé de cette visite ?
Bah, elle est super cool, franchement. En plus, on va pouvoir mettre des libellules et des nénuphars dans notre mare. Ça, c'est trop cool.
Justement, il a dit qu'on
est... Et des grenouilles ?
Ouais, pourquoi pas ?
Ouais, mais ça, il va falloir attendre qu'elles viennent.
Alors, est-ce que vous avez repéré des petits animaux justement qui venaient dans cette mare ou pas ?
Moi j'ai repéré deux ou trois tritons.
Tu connais un peu les tritons ? Comment ça marche ? Comment ça fonctionne ?
Non.
Non ? Bon.
Moi j'ai vu une grenouille.
Non, c'était un triton.
Non, j'ai vu une grenouille, je t'ai dit.
Et vous monsieur alors du coup ? Le papa ? Qu'est-ce que vous avez pensé de cette visite ?
Eh bien franchement très intéressant. Effectivement, moi ça me donne bien envie d'en faire une. Après, comme dit monsieur, je pense que c'est travail de Romain, c'est l'expression, parce que on a déjà creusé quelques trous à la maison et ouais, c'est franchement une tannée quoi. Mais bon, après, c'est vrai que le résultat, il est sympa. Niveau faune, flore, c'est... Puis là, on est à côté depuis tout à l'heure, franchement, on est bien, c'est agréable.
Ah oui, c'est zen, hein.
C'est zen, ouais, tout à fait.
C'est vraiment pas mal quoi, pour la biodiversité, justement. Puis le fait que c'est fermé au public, ça peut se développer naturellement, quoi.
Alors j'ai vu que vous aviez capté qu'il y avait des tritons dans la mare, vous les avez vus ?
Oui, je les ai vraiment vus quoi, deux tritons là, qui se baladaient quoi justement. Puis bah, madame là elle vient d'en revoir. Hein.
C'est important pour vous, est-ce que ça vous permet peut-être éventuellement si vous avez un jardin de créer une mare ?
Bah, c'est toujours intéressant, mais moi ce qui me fait toujours peur aussi c'est les moustiques quoi aussi, parce que moi sinon après... Ça peut être pas mal, un petit truc, oui.
Bah, elle est belle, la mare, malgré le manque d'entretien.
Alors, quand tu dis manque d'entretien, qu'est-ce que tu entends par là ?
Parce que... y a beaucoup d'herbes sur les côtés, mais malgré tout ça, elle est quand même belle. Et c'est agréable de voir la nature et tout, avec les insectes qui se baladent et les animaux qui se développent aussi dans la mare.
Reportage réalisé par Boris Guyot pour Radio PFM lors d'une visite du jardin botanique Floralpina d'Arras organisée par A. Jabot Flora, association des amis de ce jardin botanique.
Cette émission est proposée dans le cadre des productions coopératives des radios associatives du nord de la France, une coopération qui a reçu le soutien de la région Hauts-de-France.
Vous écoutez Radio Campus sur le 106,6 FM.
Nerjam, 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 Nerjamos, Nerjam, Nerjamos, Nerjam, Nerjamos, c'est le pétan. Nerjam, Nerjamos, Nerjam, 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 Nerjamos, Nerjam, Nerjamos, Nerjam, Nerjamos, c'est le pétan. Je digère pas les frites, je sais pas où j'habite. Je raconte pas minus tout ce qu'il y a comme cactus in the désert. Et moi j'ai in the désert, fringué en légionnaire. Ah! Je m'endère in the désert. Tiens, voilà l'autobus, là derrière les lotus. Il est plein d'hommes grenouilles, je te dis pas comme ça grouille in the désert. Tiens, dit-on qui c'est ce blaire. On dirait mon beau-frère in the désert. Tiens, c'est bientôt l'heure de l'apéro. Je rêve de glaçons dans mon Pernod, oh, 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 oh. On se croirait au Colorado, oh, 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 oh. putain, je meurs de soif, pas un bistrot. Oh, 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 oh. C'est vraiment le mec nul, la dernière des crapules, mon beauf avec Germaine, ça me fout la haine in the desert. Ouais, c'est bien le roi des blaires. Je vomis mon beau-frère in the desert. Voilà les contractuels avec des portes, jartelles qui a poil en moto, gratte des crottes de chameau in the desert. Ah, je monte d'air in the desert. Appelez l'infirmière, crise de nerf, 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 crise de nerf, 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 crise de nerf in the desert.
Egyptian.